entreprise.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Forêt Reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM à Périgueux et 95.9 sur Radio Plaisance en Périgord Nord. Si vous étiez à l'écoute jeudi dernier, vous avez pu entendre une première partie d'un film, plutôt de la bande-son d'un film, depuis l'école publique de Djéliboubou, donc un film du mouvement des sans-voix au Mali, qui documente les débats qui se sont produits lors du forum des 100 qu'il organisait à Bamako, en juin dernier. Donc si vous n'étiez pas à l'écoute, on peut vous renvoyer à l'audioblog de l'émission sur lequel sont archivées les émissions passées. Donc sur internet, c'est audioblog.arteradio.com/fort-et-reclus à l'Elysée, tout attaché sans accent. On va diffuser la suite et la fin de ce document donc sur le forum des 100. Et ça va se développer en 4 thèmes. Donc, nation nègre et culture, commentaires sur la société du spectacle, critique de l'urbanisme, terre et liberté. Bonne écoute.
Toujours par rapport à ces préoccupations de France-Afrique, nous pensons que la dimension est aussi psychologique. Aujourd'hui, nous pensons que en termes de proposition, c'est que les Africains se tournent vers l'Afrique elle-même. Ils se tournent vers les Africains, vers le peuple, pour qu'il y ait vraiment une véritable démocratie à la base, vers le peuple et à travers le peuple. C'est dans l'idée de nous faire croire qu'aujourd'hui, que la démocratie est une valeur véhiculée par l'extérieur sur les Africains. Elle est considérée comme une norme. Donc qu'il faut vraiment inoculer aux peuples africains. Alors que si vous essayez de voir l'Afrique dans sa structure, en faisant une genèse sociopolitique de l'Afrique, quand on sait que le rôle qu'a joué l'arbre à palabre aujourd'hui, qui se traduit au pays de Gombal et Toguna et autres, c'est le travail des historiens, donc vraiment d'apporter un démenti formel.
Vers la fin du XVIIIe siècle, un mouvement politique va se développer à travers les Amériques, l'Europe et l'Afrique avec le projet d'unir les mouvements disparates en un réseau de solidarité pour mettre fin à l'oppression. Cela va conduire au panafricanisme. Ce panafricanisme peut être considéré prosaïquement comme étant une vision sociale et politique, une philosophie et un monument ou un mouvement qui converge vers une unification des Africains d'Afrique et les membres de la diaspora africaine en une seule communauté africaine appelant à l'unité politique de l'Afrique. Vous conviendrez bien avec moi que ce mouvement dit intégration a commencé bien avant les indépendances. Du 22 au 26 mai 1963, 31 chefs d'État et de gouvernement se rencontrèrent à Addis Abeba pour créer l'Organisation d'unité africaine, OUIA. L'OUIA est cependant loin d'avoir atteint ses objectifs. Les chefs d'État et de gouvernement, réunis le 9 au 12 juillet 2001 à Lusaka, en Zambie, ont décidé de remplacer l'OUIA par l'Union africaine. Le sage Amadou Ampateba disait certes que c'est la diversité des couleurs d'un tapis qui fait sa beauté. Au lieu de rapprocher davantage les peuples pour faire de leur diversité une force et un atout pour le continent, les leaders africains et même les groupes de pression interne comme externe au continent en font une arme redoutable de combat. L'introduction dans les programmes scolaires d'une culture panafricaine s'avère inéluctable pour espérer l'effectivité d'un tel projet.
Léomoa, la CDAO, tout ça là est bon. Mais au fait, qui finance ces organisations? Qui finance ces organisations? On nous a présenté des programmes, des objectifs du millénaire pour le développement. Il n'y a pas d'objectif pour du millénaire pour le développement tracé par Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Lumumba et autres.
De 1900 à 1960, 5 fois et 6 fois le colonialisme a modifié les frontières.
pour montrer aux Banyamulenki qu'ils n'ont rien à voir avec les Mossi, pour montrer aux Bambara qu'ils n'ont rien à voir avec les Pel, pour montrer aux Hausa qu'ils n'ont rien à voir avec les Zulu. Et cette politique de division a fait son temps. C'est pourquoi aujourd'hui, les peuples africains doivent comprendre une seule chose, c'est que notre union doit se faire sur la base de l'union des peuples. L'union des peuples africains et non pas l'union africaine. L'union africaine pour nous, ce n'est pas l'union des États africains. Que cela soit clair, ces États-là doivent disparaître. Purement et simplement, et qu'on arrive, n'est-ce pas, à défendre l'intégration économique ou sous-régionale, mais de supprimer purement et simplement les frontières. Aujourd'hui, Kadhafi est en train de réprimer nos propres concitoyens. Tous les Africains sont réprimés aujourd'hui en Libye. Pas plus tard que l'autre jour, ils ont condamné à mort à peu près 6 Nigériens pour vandalisme et vagabondage. Donc, c'est pas ça l'union africaine. L'union africaine pour nous n'est pas la CEDEAO, ni comme le président de l'AME a dit, les accords de Cotonou. L'union africaine pour nous, c'est l'union des peuples africains pour les droits sociaux et culturels. Je vous remercie.
Quand vous par exemple, Sénégal, qui a changé sa législation nationale et du coup qui a des articles qui criminalisent des gens de voyage, des gens qui veulent simplement passer par le Sénégal ou qui veulent y résider, il y a un souci. Quand vous voyez le Burkina qui a signé un accord communautaire avec l'Union européenne pour la réadmission même des non-nationaux burkinabés,
avant l'Euro-Afrique proposé par le président Sarkozy, avant l'Amérique-Afrique, avant l'Arabie-Afrique, et hors de l'Afrique et des institutions tout comme Néoma qui sont des véritables spots de l'impérialisme colonial français. Abat la CEDEAO, abat l'Union africaine. Je vous remercie.
Il a raison. L'avenir des enfants maliens est hypothéqué. Faut pas qu'on s'énerve parce qu'on est dans une phase de liquidation de l'école publique au profit de l'école privée. Prenons le district de Bamako. Les écoles privées du premier cycle, c'est-à-dire du préscolaire jusqu'au supérieur, dépassent largement les écoles publiques. Et la plupart des écoles, leurs promoteurs, c'est des anciens directeurs, c'est des anciens ministres. Nous les savons, on les connaît.
Nous pensons que les structures qui ont été mises en place par les privatèges, ANP, etc., nous pensons que ce sont juste des cadres de récupération des jeunes qui peuvent être aujourd'hui comme alternants pour les dirigeants. Donc c'est pourquoi la PEJ a été créée. Pour une petite histoire, le journal Jeune Afrique, le Nouvel Observateur, etc., ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Malheureusement, du moins, encore que la jeunesse ne veut pas lire. Quand tu veux cacher quelque chose à un article, il faut le mettre dans un document. Il faut vous informer. C'est très important.
Et en ce qui concerne la démocratie, c'est vrai le rôle de la jeunesse. La jeunesse doit s'informer. Je dis bien que la jeunesse s'informe. Et pour s'informer, il faut avoir les moyens de s'informer. Est-ce que cette jeunesse a les moyens? Je prends le cas de Bamako, où on a, je crois bien, 4 facultés. Et sur les 4 facultés, combien en ont une bibliothèque? Point d'interrogation. Ce qu'on peut appeler bibliothèque, il n'y a que deux. Le centre Djoliba et la bibliothèque nationale. On prend la bibliothèque nationale pour aller la placer à la CI 2000, où aucun étudiant ne passe par là-bas. Aucun étudiant. Et après ces deux bibliothèques, on se hante la tête pour sortir à la télé, dire qu'il y a une université au Mali et que les étudiants n'ont pas le niveau et que ceci et que cela. Alors que rien n'est mis à leur disposition. Nous, on est fiers aujourd'hui. Si on est devant ce public pour s'exprimer, on est fiers.
Comment renforcer la dynamique culturelle au Mali? Le mouvement Rastafari a ses
ces signaux et ces signes qui spécifient tout un monde qui tourne autour de la mode et puis de la culture pour la musique reggae et puis le discours pacifique dans ces lacets. La chanson n'est pas expressive, c'est ce que véhicule la chanson qui est expression. Je sais que l'artiste a pour chance de pouvoir adresser à un auditoire. Les peintres ont des chances par rapport à ce qu'ils trouvent des commandes pour faire des décorations, des chants, des panneaux, des teintes. Et à ce moment-là, leur faculté artistique tend à être diluée. Parce qu'au lieu qu'ils s'expriment en tant qu'artiste décorateur, ils vont s'exprimer en tant qu'artiste artisan. Un plasticien se diffère d'un peintre en ce sens que le plasticien, c'est celui-là qui est resté fidèle à l'esprit, à la lettre de l'art, donc qui est resté fidèle à une certaine philosophie de la conception de l'art, savoir faire des beaux tableaux qui va pouvoir négocier à l'Union européenne pour qu'on les présente dans les salons et autres, ou bien qui n'a pas aspiration à ce marché, va voir les galeries et d'antiquaires pour pouvoir poser deux ou trois tableaux là-bas, afin que quand les touristes viennent, ils puissent avoir accès à la visibilité de ces tableaux et les consommer. Les maisons de production, les CCF, les autres agences culturelles sont là pour aider le secteur artistique et culturel au Mali à s'épanouir. Et n'empêche, la Banque mondiale a compris d'elle-même qu'il faut relancer la culture dans les pays du Sud.
Et je vais répondre par rapport à l'intervention du camarade Mourasma. Je vais être très sévère cette fois-ci. Et moi, je m'attendais à une intervention très, très révolutionnaire et progressiste par rapport à la question de la culture. Aujourd'hui, les MSV et les Mourasma, moi, je pense que les gens nous taxent d'être des anarchistes, d'être des rastas, parce que nous avons un discours alternatif. Mais j'ai cru entendre que les États africains du sous-développement, en voie de développement, et aujourd'hui, ils essayent d'accéder au capital financier. Nous, moi, je pense qu'on n'essaye pas du tout d'accéder au capital financier. Et la culture, pour nous, ce n'est pas les chants et les danses. Et c'est ça que l'impérialisme veut qu'on aille sur ces terrains-là. Pour chanter, danser et lire les romans pour davantage nous abrutir. Pour nous, la culture est extrêmement importante. Comment nous pouvons y arriver à ce que la culture populaire sert de l'éducation populaire et alternative de notre peuple pour que ce soit une culture qui s'oppose au capitalisme, à la bourgeoisie nationale comprador. Donc moi je vois la culture sous cet angle-là.
On peut répondre à l'identité, l'affirmation, la véritable affirmation de l'identité culturelle africaine. Quel est le rôle de Rasta? Oh, nous, on sait qu'on a plein de projets. Bon, on propose un syndicat du collectif des artistes de Bamako. On propose un lobbying, plaidoyer, association libre de coopération et d'amitié France-Afrique. On propose aussi un bureau public de placement pour que les jeunes puissent être eux-mêmes leur propre AMP, leur propre APM. On propose tout cela, mais on ne veut pas les jeunes s'accrocher à une idée, à une vision, à un projet jusqu'au bout pour pouvoir s'en sortir. Alors on s'est dit, il faudrait qu'on crée une école de pratique de la demande sociale parce que nous, à la place du communisme, du socialisme, du libéralisme, du capitalisme, on voulait mettre tout ça en jachère pour réfléchir sur ce que le Conseil Assyrie nous a donné de réfléchir, à savoir la satisfaction de la demande sociale africaine à travers une Ligue démocratique africaine. Voilà ce que j'avais à dire. Thank you.
occupation coloniale. Ils ont résisté, résisté pour cet impérie. 16 mois de résistance, Dalma mis à mouriture. J'immortalise le Kennedy, royaume de Famasso. Chevani babé massababouya. Chomaya kele bana Kennedy. Ouye sa mouriture kele. Tata maman sababouya. Ouye sa mouriture kele. Mongo chama. Je me souviens du tata des résistants. Le son des patriotisme, Babema le radical. Babema dit non, 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 pénétration coloniale. Ils ont résisté, résisté aux intempéries. Moi, Aziz, je fais appel à la population de Sigasso et environ Kanka Bekelema, Kanka Kekelenye. Salam na wadada.
L'Africain en général ne vote pas et après celui qui proteste. Pour protester, il faut voter et choisir. Ah, mais ce qui est paradoxal, tout le monde vote. Ah, aux élections, tout le monde vote. Mais ce n'est pas ce qu'on introduit à l'île qui apparaissent. Avant même les élections, on s'est dit vraiment, telle personne ou bien telle partie a des moyens. Ah, telle partie a les moyens, on voit plus de t-shirts, on voit plus de pagnes. Donc on s'est dit déjà qu'à la sortie, on se fait déjà une idée de qui doit gagner à la sortie et sans trop jamais. Quand vous rentrez dans nos carrés, dans nos familles, tout le monde parle mal de ces partis politiques au pouvoir. Hein? Ça veut dire que ça ne va pas. Si tout le monde parle mal, hein, pourquoi ils sont toujours là? On passe à une troisième élection, ils vont toujours gagner. Ça veut dire que quelque part ça ne va pas. Il y a un problème. il y a un problème. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle, ils gonflent les hymnes pour essayer d'avoir plus de voix que les autres.
Je ne sais pas comment m'exprimer. Pourquoi? Parce que le citoyen malien est bâillonné. On est bâillonné alors que le fondement même de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais qui a cette liberté d'expression? C'est les tenants du pouvoir. Moi, j'ai mon problème, mais à la tête chinoise, il faut qu'on m'aigne ici. OFM a pour le temps un problème pour moi. Je n'aurai personne pour m'éduquer, je n'aurai personne pour faire passer mon message. Et tout simplement parce que les médias d'État sont à la solde du pouvoir.
Est-ce que les médias, n'est-ce pas, qui sont là aujourd'hui à Bamako répondent, n'est-ce pas, aux aspirations des masses populaires? Il y a des médias, n'est-ce pas, au service de la démocratie bourgeoise. Donc, médias, quel type de médias pour consolider quel type de démocratie? Est-ce que l'heure n'est-il pas arrivée pour nous, 50 ans après l'indépendance, de créer nos propres médias, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous exprimer en toute autonomie et en toute indépendance dans ces médias-là?
Je dirais que notre époque est essentiellement marquée par le triomphe du capital financiarisé et mondialisé, laquelle se traduit par l'intrusion de la logique commerciale à tous les stades de la production et de la circulation des biens culturels. La condition sine qua non du progrès serait donc que les biens culturels, en particulier l'information, soient considérés comme des produits, des marchandises et soumis à la loi du profit. Les masses médias sont, dans ce cadre, assignés à la fonction de formidables instruments de maintien de l'ordre économique, politique, social et symbolique au service des intérêts du grand capital financier mondial par les divers procédés de conditionnement, de divertissement, de dissimulation, de séduction. En effet, ces outils modernes et ultramodernes sont directement ou indirectement soumis aux censures politiques, économiques et idéologiques. Sur le plan politique, le contrôle s'exerce au travers des nominations aux postes dirigeants, par le conformisme politique imposé aux journalistes, notamment ceux de la télévision et de la radio, placés dans une situation de grande précarité de l'emploi et de ce fait astreint à l'autocensure, sinon à l'opportunisme et au larbinisme. Sur le plan économique et idéologique, le contenu des médias est de plus en plus déterminé par ceux qui les possèdent, par les annonceurs qui payent la publicité, par l'État qui donne les subventions, et il ne viendrait à l'idée d'aucun professionnel de ces grands médias de mettre en cause les intérêts de ces multinationales capitalistes au profit des altermondialistes que nous sommes. Vraiment, c'est chaque jour, c'est un tour de vis. Toujours la musique. On est en train de nous clochardiser. On est en train de nous clochardiser. C'est toujours de la musique. Top étoile des enfants. Voilà, etc. La concurrence, loin de favoriser une diversification de l'offre, procède au contraire à son uniformisation, tant à l'échelle nationale qu'au plan international. La concurrence détruit la diversité culturelle. Elle homogénise les produits et les hommes, les produits omnibus qui sont valables pour les publics de tous les pays. Elle impose à tous la pensée du plus puissant qui devient pensée unique. Lorsque la guerre du Golfe a éclaté, et regardez ces chaînes occidentales, mais avec quelle contrition on voit ces, entre guillemets, ces spécialistes donc de ces questions justifier cette guerre de conquête coloniale, de pillage des ressources d'un pays comme l'Irak. La domination néolibérale dévoile au grand jour le caractère mensonger et hypocrite du système démocratique en régime capitaliste. Elle en fait une coquille vide. Donc, aujourd'hui, parler de rapport entre médias et démocratie, donc, sous l'angle et la vision donc, des acteurs sociaux, pour moi, il faut donc que nous créions des espaces autonomes qui contreviennent justement à cette logique infernale à laquelle on veut nous soumettre. Nous sommes donc dans une époque où notre leitmotiv doit être la résistance. Et donc, l'action concertée des citoyens, qu'ils soient du Nord et du Sud, permettra, je suis convaincu, vraiment de dire non à ce système et de donner vraiment la vision démocratique donc, du monde, une vision donc, fondée sur le respect des principes et des valeurs donc de tous les peuples du monde. Je vous remercie.
c'est de savoir est-ce qu'il y a véritablement une liberté d'expression au Mali, compte tenu du fait que vous-même vous avez été emprisonné ici.
C'est pour des raisons d'État que j'étais arrêté. Est-ce que j'avais un programme de coup d'État? Est-ce que j'avais une mission secrète d'aller donc flinguer quelques personnalités au palais présidentiel? Ou bien est-ce que je tramais quelque chose? En tout cas, on me dit que c'est pour des raisons d'État. Mais la raison officielle, publique, qui a été avancée par le procureur de la République à la télévision nationale, c'est que je suis accusé d'escroquerie. La police me dit, attention, cher ami, nous nous savons d'où ça vient. C'est une affaire très très sérieuse et nous craignons pour votre tête. Mais vous avez l'air de quelqu'un, vous êtes une tête de Turc. Donc, il faut que vous preniez vraiment avec beaucoup de précautions la menace qui vous concerne directement. Nous, nous n'avons pas les mains libres pour travailler, mais nous savons d'où vient la menace. Mais toujours est-il que moi j'ai été arrêté, on m'a détenu 48 jours à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Il y a eu donc des communiqués à la télévision nationale pour dire que mon arrestation n'était pas liée à ma profession. Il y a eu donc une levée de boucliers des magistrats, les syndicats de la magistrature qui sont allés voir notamment le président de la République pour dire de ne pas me libérer. De ne pas me libérer parce que moi, je suis passé, j'ai accordé une interview à une radio de la place dans laquelle interview je faisais fi de tout bois et je l'ai montré à la vindicte populaire comme vraiment les auteurs vraiment de toutes ces magouilles et de tous ces dénis de justice qui se passent dans notre pays. Mais ça m'a fait peur, pourquoi ? Parce que ça m'a donné l'image d'un pays qui est entre les mains de la mafia. C'est-à-dire que notre pays est entre les mains de la mafia. Des trafiquants d'or, des trafiquants de drogue, qui investissent l'appareil d'État, qui contrôlent la justice, qui décrètent que telle personne, parce qu'il est telle personne, il est en train, il veut tout faire pour mettre en lumière nos agissements. Il faut le mettre au frigo, qu'il y réfléchisse bien. Lorsque on va le libérer, il va se chercher. Donc, de la prison, on m'avait demandé vraiment de me taire, de tout faire pour que les médias n'en parlent pas mot. Que vraiment, mon bouillant camarade là, vraiment, il est fatigué. Il faut que tu lui adresses des lettres, vraiment, il n'a qu'à faire doucement, on va trouver une solution. Et donc, des manœuvres, des discussions, des coulisses. Je vous informe que je suis en liberté provisoire. Je suis en liberté provisoire et je veux savoir comment on a mis en place toute cette cabale. Je n'ai jamais, jamais, jamais accumulé une fortune. Je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai rien. Alors, du jour au lendemain, on vient dire à cet homme que celui-là, il est escroc. Et puis après, donc, à sa libération, on appelle tout le monde pour le prier, pour dire que bon, il faut vraiment qu'il se tienne tranquille. Ça me tue. Moi qui me suis battu avec beaucoup d'entre vous ici, mars 91, on a failli nous liquider pour nos idées, pour nos convictions.
Démocratie zéro, démocratie zéro. Opposition des Mali, la démocratie zéro. Liberté d'expression, de démocratie zéro. Il a fauché ma voix, la démocratie zéro. Yo, qui vole la maman d'inga en matin, il faut bien. Massa à la commission, la tienne en beau, là c'est bien. Sonnez nous mettre à son la cour, les mains au béquin et ma bien. Censure Mali, la démocratie, blog ou commando. Tata femme censure la démocratie, blog ou commando. Opposition des Mali, la démocratie, blog ou commando. Opposition qui s'y taouye, Aïdara Tifoué. Ou Bora Antigibro, Diko Tifoué. Démocratie, bémi, aïrana, kéné, n'y était voila. Nega malikera, mafia, y'en a pas solos, trop béclana. Bouda brille, n'est pas du lila, ima, y'a bé de façana. Tiens, t'es faux, j'aime la mina, noumi, kaka, sangé, irila. Kouma, chama, l'aïdou, chama, tara, kouma, y'en a poche, mais les chama, bama, chama, kera, démocratie, zéro. Opposition, zéro.
Allez, démocratie, y'fou,
kouma, chama, l'aïdou, chama, tara, kouma, y'en a poche, mais les chama, bama, chama, kera, démocratie, zéro.
Confiance en l'ère démocratie, l'éthique n'est pas dans l'ère politique, ce qui compte c'est le fric. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient des pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime car ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents en Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B-52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple meurtrit, tu le sais. Notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte. Et puis c'est fini. Certes, il y aura un compte à rendre après cette vie.
Nous avons entendu à la radio Mali, un communiqué laconique. Je dis bien laconique parce que personne n'avait été avisé auparavant de ce communiqué. Et par ce communiqué, nous avons appris que l'État a invité nommément quelques propriétaires pour se présenter à la direction régionale de l'urbanisme à Kati, munis de leurs pièces justificatives. Aucune autre information n'est parvenue aux propriétaires jusqu'au 23 avril 2009, quand le Conseil des ministres de ce jour a approuvé le projet de décret d'expropriation globale. Il semblerait qu'il y ait tentative d'extraire de la liste certains propriétaires proches des décideurs, des terrains où les géomètres ont eux-mêmes leurs intérêts, des terrains de ceux qui corrompent les techniciens. On a même dit qu'après chaque morcellement, 60% des lots appartiendraient aux géomètres et aux autorités. La distribution même de ces logements sociaux, c'est vraiment le plus douteux de tout ce qui existe au Mali. Nous avons créé notre association. Étant donné les difficultés de produire pour l'État un bilan fiable, un plan fiable et définitif, étant donné que nous avons été mis devant le fait accompli, étant donné les antécédents d'expropriation où les propriétaires ont été injustement indemnisés ou sinon pas du tout, le cas de Kabbala où on a construit le stade du 26 mars, jusqu'à présent là, ces gens-là n'ont pas été dédommagés. Vu toutes ces anomalies, nous dénonçons ce décret parce que pour nous, on ne peut pas construire une ville sur une autre ville. On ne peut pas non plus lutter contre la pauvreté en créant des pauvres. L'État malien a ratifié tellement de textes pour lutter contre la pauvreté et c'est ce même État qui est en train de créer des pauvres. Parce que chez nous, en Tabakoro, aujourd'hui, vraiment, c'est la pauvreté. C'est de l'arnaque, ce n'est pas du tout d'utilité publique. Nous dirons même que c'est d'utilité politique. parce que nous savons à quoi ces logements sociaux sont destinés.
Bande 141-141 à Sabalibou, c'est là où il y a le grand problème. Sabalibou, c'est là où moi-même j'habite. Donc, l'école a été démolie en 92 et jusqu'à présent, les gens sont là, ils n'ont pas été recadrés. Tous ceux qui ont été décrits dans le golfe, ils n'ont pas été recadrés. Ils sont là, ils sont derrière moi. Plus de milliers, les habitants de Sabalibou-Est qui s'étaient déjà regroupés en association, ils sont partis à la Cour suprême en 94 et ils ont gagné le procès. En 2000, la mairie a initié un projet pour prendre la plus grande partie de cet espace-là qui a été défendu par la Cour suprême. Ils sont venus morceler une petite partie de Sabalibou-Est. La grande partie, maintenant, ils l'ont considéré comme projet bande de 140 mètres. C'est-à-dire un projet d'embellissement de l'entrée de Bamako. On a intenté un projet pour dire qu'on n'est pas d'accord pour le projet. Le 30 mai 2010, la démolition a commencé. Tous ceux qui ont été les premières victimes, ils ont eu les effets, leurs maisons et tous ceux que les maisons contenaient, qui ont été ravagés. Alors, le gouverneur a voulu nous faire dormir en assemblée générale. Il est venu un dimanche soir, toujours en 2007. C'est le président ATT qui lui a envoyé à nous pour nous dire que les Chinois lui ont donné des milliards pour la construction de la maison de la femme et de l'enfant au Mali. Puisqu'on était en assemblée générale, les lieux sont là, tout le monde est là, donc moi je dis de toute façon, c'est l'assemblée qui va décider. Donc nous voulons maintenant notre espace. Et on est à ce niveau. Ils ont violé le code domanial. Parce que tout individu ou tout groupe d'individus, alors occupant un endroit inter non immatriculé par l'État, il ne doit pas quitter sans qu'il n'ait au préalable un dédommagement. Au préalable, nous, on n'a pas été dédommagé. Ils n'ont même pas parlé de ça. Donc c'est ce qui a amené tout cela. Et en même temps, nous sommes partis au niveau d'autres communes et on a créé l'Union des associations et de coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis. Donc moi je suis le secrétaire général. C'est dans cette lutte qu'on a créé l'Union. Donc c'est pour vous dire que cette lutte-là peut nous amener un peu plus loin encore que ça.
En fait, vous avez le même problème que nous les jeunes. Hein? Mmh. Parce que moi, je suis dirigeant d'une équipe de football et entraîneur en même temps. Mais je vois que mon terrain sur lequel je m'entraîne actuellement a été morcelé par la mairie. Donc ils sont venus dire que non, votre terrain se limite là. Et cette partie-là, bon voilà, c'est pas pour vous, c'est pour la mairie. Et toutes les femmes exploitantes de sable qui sont là-bas, c'est nous qui leur avons dit de s'installer puisqu'ils sont nos mamans et ils ont des familles.
L'autre information, c'est que le groupe GDCM de Modibo Keita, de l'agro-business, en train de démolir des centaines d'hectares à Ségou. Et les villageois sont aujourd'hui en train de frapper à toutes les portes. Mais je pense que leur cri est en train de rester lettre morte. Donc ici, le forum, les restes solidaires par ma voix.
Il y a deux semaines, alors les propriétaires de parcelles de Tabakoro, ils ont fait l'opération suivante. Alors, comme ils sont dans la confusion totale, ils ne savent plus que faire, et ils se sentent perdus, ils ont fait venir des enfants à bas âge, nos petits-enfants de 8 ans jusqu'à 10, 12 ans comme ça, des milliers, on les a amenés sur le chantier, pour travailler. Les vieux les ont amenés sur les chantiers et on les a sensibilisés en leur montrant les parcelles, en leur disant voici ça, ça appartient à ton papa. On est en train maintenant de construire là-dessus, ou bien à ton grand-père, on est en train de construire alors qu'il a les papiers en main pour donner à ceux qui sont plus riches. Alors le jour où vous allez grandir, le jour où vous allez avoir aussi la responsabilité soit des ministres ou des présidents, revenez rechercher vos terres. parce que ça vous appartient. Est-ce que ça, c'est pas une guerre de génération qu'on est en train d'amener dans ce pays-là?
Les petits-enfants.
Il y en a qui ont dit que non, ATT prend ça pour donner à ceux qui sont plus riches, pour qu'on vote pour lui pour le troisième mandat. Et il est clair aujourd'hui que c'est utilité politique. Il n'y a que l'action qui compte actuellement dans ce pays. Et j'ai donné un exemple. Mais malheureusement, les gens ne peuvent pas voir. Africa ne peut pas transmettre ça, et la radio Mali, n'en parlons pas. Nous n'avons pas de possibilité de diffusion. Alors moi je dis au MSB, le problème est clair. On ne peut pas parler à quelqu'un qui a oublié comment écouter. Il faut agir. Nous sommes à la phase d'action. Et je pense que les jeunes vont aider dans ce cadre-là.
Mediateur de ma trouble.
go trouble every time I feel. For Africa, unification time. For what Africa, unification time.
L'agrobusiness, c'est en général une agriculture qui est essentiellement exportatrice. C'est une agriculture prédatrice. Une agriculture prédatrice, c'est quoi? C'est l'agriculture qui vient. Il s'en fiche de tout ce qui se trouve autour de lui. L'essentiel, c'est de produire. Produire seulement et produire. Ça détruit le sol, ça détruit la nappe, ça détruit l'écosystème, les animaux. On a vu en Europe, les abeilles sont obligées de se diriger maintenant vers la capitale à Paris, parce qu'en brousse, déjà, il n'y a plus d'abeilles, on a tout eu. Et c'est une agriculture qui est colonisatrice. Colonisatrice pourquoi? Parce que quand ils viennent, c'est leur loi qu'on fait, c'est leur culture qu'on fait. Par exemple, quelqu'un vient de l'Europe ou de l'Asie, il a besoin de tant de quantités, par exemple, d'haricots verts. Donc, il vient me dire, d'abord, il m'amène ses semences, il dicte ses lois, il dit, il faut faire ceci, cela. Moi, le pauvre paysan, je cultive son petit pois ou bien son haricot vert. Maintenant, ensuite, il vient, quand je suis content, j'ai une tonne de récolte, il vient, il choisit et finalement, il me dit, bon, je prends seulement sous la tonne, je prends seulement 100 kilos, c'est ça qui est de meilleure qualité, c'est ça qui est ceci, c'est là. Et maintenant, tant pis pour le paysan qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire du reste de sa récolte. C'est une agriculture aussi qui est chimique. C'est sûr, les produits qu'on consomme à la suite de ce système agricole, c'est les produits qui vont nous rendre malades. Ça, c'est clair et net. On le sait. Ici, chez nous, il faut que les spécialistes se mettent au boulot pour essayer de démontrer. On ne comprend pas, dans ces 10 dernières années, les maladies qu'on n'avait pas ici au Mali, ou bien qui étaient à des taux très faibles, on commence à les enregistrer maintenant jusqu'à des taux allant au-delà de 75%. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde a des problèmes de gastrique, des problèmes d'hémorragie, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas comme ça que c'est venu. Et je suis sûr à 80% que c'est lié à ce qu'on mange. Et je vous assure que ces grands fabricants de produits chimiques et engrais, et c'est les gens qui sont les grands propriétaires aussi de grandes cliniques de traitement de cancer et autres en Europe et à travers le monde. Donc, dites-vous qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de donner à la population. Maintenant, pour éviter tout ça, il faut passer par l'agriculture écologique, c'est-à-dire nourrir le sol avec le compost, appliquer les techniques, par exemple, de préparation des biopesticides pour traiter les plantes et éviter l'utilisation des produits chimiques. Et puis, une agriculture qui va nous permettre de consommer jusqu'à X temps notre nappe. Et en Europe, il faut le soumettre à des analyses, parce que toutes les nappes, pratiquement, ont été polluées. Donc, et nous, on a encore la chance, on peut creuser un puits ici tout de suite, on prend l'eau, si vous voulez analyser oui ou non, c'est trop tout bas, vous pouvez creuser votre puits, vous prenez l'eau, vous le buvez, il n'y a pas de problème. Pour un peu me présenter, je suis c'est Dr Omar Diabaté. Dans un premier temps, je dirais que je suis paysan, je suis fermier, j'ai une ferme, j'ai fait mes études supérieures en ex-USS. Des études vétérinaires. Tout ce que je viens de le dire, ce n'est pas des théories fortuites, je le pratique. Actuellement, je produis ce qu'on appelle le panier de produits que je donne aux consommateurs. Ça, c'est un système qui peut permettre d'abord d'avoir une autosuffisance alimentaire locale, parce qu'il y a l'échange directement. Et je vous assure qu'il y a des gens avec lesquels on fait l'échange à partir des maçons qui n'ont pas assez d'argent, qui peuvent me dire, par exemple, je fais ce travail chez toi, mais tu me donnes un sac de maïs. Donc, c'est un truc qui est très clair, terre à terre. Ça peut permettre localement aux gens de se défaire de ce système trop lourd du marché qui ne fait que nous causer de problèmes. Et puis là aussi, le produit est propre. Voilà. Merci. Okay.
Vraiment, j'ai suivi avec intérêt votre intervention, mais mon inquiétude, c'est de savoir est-ce que le département en charge de l'agriculture a fait quelque chose par rapport à tout ça. Parce que vous avez parlé de beaucoup de choses qui s'attaquent à l'écosystème. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui n'arrangent pas nos agriculteurs. Parce que nos agriculteurs, souvent, ils ne sont pas mal formés, souvent, ils n'ont pas les moyens. Un bailleur qui vient de l'Europe maintenant, il a les sacs bien remplis. Tu es obligé de faire ce qu'il lui demande. Même si tu es sur ton territoire, tu es dans ton pays, tu n'as pas de choix.
Moi, j'ai commencé toutes ces activités sans aucune subvention. Je n'ai jamais été chercher une subvention. Je n'ai jamais écrit un projet parce que je sais que d'avance, ça ne serait jamais financé. Je sais qu'aujourd'hui, dans ce pays, quand tu vas voir l'Agence française de développement pour maintenant faire un projet de balayage des rues ou bien de nettoyage des fossés ou bien de faire des barres par-ci par-là, là tu auras le financement. Mais quand tu veux aller faire une production de riz, une production de denrées alimentaires, tu n'auras jamais le financement parce que ça bloque quelque part.
Aujourd'hui, on vient nous proposer encore de faire l'agro, je ne sais pas quoi, pour faire de l'essence dans les trucs. Les gens n'ont pas à manger, on cultive maintenant pour mettre dans les voitures. C'est les programmes qui viennent de l'extérieur, tout est décidé à l'extérieur. Et je vous donne un exemple concret, à Sikasso, il y a eu le mouvement, c'est pas Sikasso des paysans, ils ont rejeté les OGM.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est pour vous dire que c'est la population qui peut faire changer quelque chose.
Il faut qu'on cesse d'être le marché international pour toujours. Parce que nous sommes résumés uniquement à des consommateurs. On ne veut pas qu'on produise. C'est ce que les gens oublient. Chez nous, ici en Afrique, surtout au Mali, le problème principal, c'est la nourriture. Quelqu'un qui parvient à s'assurer l'alimentation, ça, c'est un grand pas. Moi, je suis docteur vétérinaire. Je me suis déplacé en Bourse. Et ça trouvait que, parallèlement, je savais qu'il y avait des problèmes de l'agriculture par rapport à l'alimentation. Parce que quand j'étais étudiant, j'étais chargé dans un marché de Moscou, j'étais chargé de faire l'inspection des fruits et des légumes avant la vente. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y a un problème réel dans l'utilisation des engrais et des pesticides. Et quand je devais cultiver mon champ, je me suis dit, attention, il ne faut pas que je retombe dans les mêmes choses. J'ai demandé à nos vieux, quelques vieux qui sont là encore dans les bourses, je leur demande, mais avant, comment est-ce que vous conservez vos mille, comment est-ce que vous parvenez à mettre le mille ou bien le riz dans le grenier? Ça fait 3 ans, ce n'est pas bouffé. Alors qu'aujourd'hui, quand on met le riz dans le sac, au bout de 3 mois, si tu ne mets pas le gros comprimé là, qui va encore empoisonner là, tant que tu ne mets pas là, les insectes vont bouffer. Toutes les maladies que la tomate a, 90% c'est causé par les insectes. Donc il y a ce qu'on appelle les insectifuges qu'on utilise. Parmi les insectifuges, il y a même ça, cette plante, ça c'est une plante minérale. Avec ça, on peut faire une révolution au Mali, quoi. Le nîme, là, tout est bon dans ça. L'huile, l'écorce, la racine, le feu, tout. Mmh. On peut faire tout avec ça. Donc, il y a cette plante, il y a ce qu'on appelle le Galotropis. Ça aussi, c'est une plante miracle qui soigne tout.
Il y a une plante chez moi, l'Artemisia annua. On vient mettre ça dans les pharmacies. Les millénaires, les Chinois, se sont soignés avec ça. Les Vietnamiens ont bouté le paludisme de ce jeu avec ce produit qu'on peut cultiver en Afrique ici.
Donc, grosso modo, c'est pour dire qu'on a tout sur place pour développer ces choses. Ce qu'on faisait avant, c'était bon. Il faut améliorer les choses, ne les rejetez pas. Je ne veux pas dire beaucoup de choses aux peules, de vrai que ce soit mes pranakas, mais il y a un phénomène chez les peules qui est très très pertinent. Quand il y a un désastre, un peule vient s'installer ici tout de suite, il y a 4 peules qui meurent, immédiatement il plie bagage, il s'en va. Donc, moi, j'ai remarqué que l'être humain même a peur de la mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'attrape ces insectes, je les mets dans l'eau, je les laisse séjourner. Au bout de 24 heures, ça pue. Hein? Ensuite, je filtre cette eau et je pulvérise les plantes avec ça. Et l'insecte, quand il vient, il sent l'odeur de la mort, il ne s'approche pas. La plante est protégée, le fruit aussi est protégé. Donc, c'est des techniques comme ça qu'on a utilisées petit à petit, et d'autres choses que j'ai vues dans le document, que j'applique, mais tout par rapport à ici.
Maintenant, concernant le sol, on prépare quelque chose qu'on appelle le compost. Comme ce compost aussi a été saboté, ça a été saboté, on le fait n'importe comment. comme on le fait ici chez nous, on fait un grand trou qui fait 2-3 mètres, on met, on fout des trucs, ça pue parfois. Et parfois, il y a des microbes très, très, très virulents qui se développent dans ça. Et si vous mettez ça dans vos champs, si jamais vous avez une plaie, c'est le tétanos. Donc, faites un bon compost, remuez le compost, retournez le compost, et c'est quelque chose qui est autosuffisant. La plante n'a pas besoin de produits. Et tout ce que la plante prend, il le prend par l'intermédiaire des microbes du sol. Et maintenant, l'agriculture conventionnelle qui consiste à foutre beaucoup de pesticides et beaucoup d'engrais, ça tue les microbes. Quand tu augmentes le minéral, chaque année tu augmentes le minéral, finalement tu tues l'organique. Et le sol devient 100% minéral. Et c'est ce qu'on appelle les sols feutrés. Il y a la pluie qui tombe là, mais tu creuses là au bout d'un demi-mètre, c'est sec. Il n'y a pas d'eau. Tu peux avoir 100 millilitres, tu creuses en bas et tu as sur la roche. Les quoi?
Sables.
On peut faire, on peut cultiver. Le nord, c'est l'un des zones. Si moi, ça dépendait de moi, on allait vraiment déménager l'agriculture au nord pour aller le faire là-bas et nourrir le sud avec ça. Ça, c'est clair. Et faire en bas la pisciculture. La région de Sigasso, on a une région ici, Sigasso. Sigasso peut nourrir toute l'Afrique en silu. Nous sommes dans un pays vierge où rien n'a été fait. Rien n'a été fait.
Il y a combien de experts en Afrique, au Mali, qu'on n'encourage pas à avancer leurs idées pour le développement de ces pays. Nos dirigeants, là, qui pensent qu'ils veulent le développement de notre pays, chez les Blancs, les Occidentaux, leur système s'est divisé pour mieux régner. Nos dirigeants, là, leur système s'est affamé pour mieux régner.
Ah oui.
Quand tu parles forum de Bamako, pour moi, c'est des forums des experts, des classes à qui les gens ont pensé que leur vie est atteinte. Ils font la pluie et beau temps. Ça, c'est ces forums-là. Sinon, on sait de quel forum nous, on en a besoin. Nous, on est en train d'agir. C'est pour cela qu'il y a le forum des saints ici. Forum des saints à qui les gens qui s'est battu au côté quotidien et que l'État n'a jamais encouragé ceci. Voilà, c'est ces gens-là qui sont là aujourd'hui pour se plaindre et voir les bilans des 50 ans d'indépendance. Et c'est nous sommes indépendants d'abord. Pour nous, on n'est même pas indépendants de notre propre chef d'abord. Après, il faut être raison les Occidentaux. Il faut penser aussi les gens qui sont en bas, les démunis. S'informer très bien et voir la réalité.
Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Coucou, coucou. Salam alaikum.
Vas-y.
Mouvement de son voix. Nous vous remercions infiniment. Des jours de forum. Il y a eu beaucoup d'actions et réactions, des contradictions et des vérités. Nous voudrons, si on sort là, que ça ne reste pas que des discours. L'action vaut mieux que le discours. À partir de ce forum, qu'on tire les idées. Merci, on remercie tous les partenaires, tous les partisans, que ce soit les Hollandais, que ce soit les Français, les Maliens, les intervenants. Nous vous remercions tous. Tout le monde, salam alaikum. Tout le monde, salam alaikum. Les droits, nous vivons le remerciements infiniment à la Cassangré également. Merci à tous les partenaires. Merci à tous les organisateurs de ce forum qu'on applaudit très bien, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Nous vous remercions. Merci, 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 merci.